Nous reprenons la lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons vers la fin du 18e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Un peu revenue à elle, Jenny les pieds du coin de l'œil. Elle pensa qu'il allait tomber et s'élança pour le soutenir. Mais le contact de cette femme lui fit horreur. Il la repoussa. Qu'était-il arrivé? Il n'eût su le dire. Ah, il voulait lire cette lettre et il ne pouvait pas. Alors il s'approcha de la table, se versa et but coup sur coup deux grands verres d'eau. L'impression du froid le ranimait. Le sang qui tout à coup avait afflué à la tête reprenait son cours. Il y voyait. C'était un billet de 5 lignes. Il lut. N'allez pas demain à Petit-Bourg, ou plutôt revenez-en avant déjeuner. Il vient de me dire à l'instant qu'il lui faut aller à Melun et qu'il rentrera tard. Toute une journée. Il... C'était lui, cette autre maîtresse d'Hector, c'était sa femme, c'était Berthe. Pour le moment, il ne voyait rien au-delà. Toute pensée en lui était anéantie. Ses tempes battaient follement. Il entendait dans ses oreilles un bourdonnement insupportable. Il lui semblait que l'univers s'abîmait avec lui. Il s'était laissé tomber sur une chaise. De pourpre qu'il était, il était devenu livide. Le long de ses joues, de grosses larmes roulaient qui le brûlaient. En voyant cette douleur immense, ce désespoir silencieux, en voyant cet homme de cœur foudroyé, Jenny comprit l'infamie de sa conduite. N'était-elle pas la cause de tout? Le nom de la maîtresse d'Hector, elle l'avait deviné. En demandant une entrevue à Sauvresy, elle se proposait bien de lui tout dire, se vengeant ainsi à la fois et d'Hector et de l'autre. Puis, à la vue de cet homme d'honneur refusant de comprendre ses allusions, n'ayant pas l'ombre d'un soupçon, elle avait été saisie de pitié. Elle s'était dit que le plus cruellement puni, ce serait lui, et alors elle avait reculé, mais trop tard, mais maladroitement, et il lui avait arraché son secret. Elle s'était approchée de Sauvresy et cherchait à lui prendre les mains. Il la repoussa encore. « Laissez-moi, » disait-il. « Monsieur, pardon, je suis une malheureuse, je me fais horreur. » Il se redressa tout d'une pièce, revenant peu à peu au sentiment de l'affreuse réalité. Que me voulez-vous? Cette lettre, j'avais deviné. Il eut un éclat de rire navrant, sinistre, l'éclat de rire d'un fou. Dieu me pardonne, ma chère, fit-il, vous avez osé soupçonner ma femme. Et pendant que Fancy balbutiait des excuses inintelligibles, il sortit son portefeuille et en retira tout ce qu'il contenait, 7 ou 8 billets de 100 francs qu'il posa sur la table. Prenez toujours ceci de la part d'Hector, dit-il. On ne vous laissera manquer de rien, mais croyez-moi, laissez-le se marier. » Puis, toujours de ce même mouvement automatique qui terrifiait Miss Fancy, il prit son fusil qu'il avait posé dans un coin, ouvrit la porte et sortit. Ses chiens restés dehors se précipitèrent sur lui pour le caresser. Il les repoussa à coups de pied. Où allait-il? Qu'allait-il faire? Au brouillard du matin avait succédé une petite pluie fine, pénétrante, glaciale. Mais Sauvresy ne s'en apercevait pas. Il allait la tête nue dans la campagne, par les chemins de traverse, au hasard, sans direction, sans but. Il parlait haut tout en marchant, s'arrêtait tout à coup, puis reprenait sa course, et des exclamations bizarres lui échappaient. Les paysans des environs qu'il rencontrait et qui tous le connaissaient se retournaient ébahis après l'avoir salué, et le suivant des yeux se demandait si le maître du Valfeuillu n'était pas devenu fou. Il n'était pas fou, malheureusement. Foudroyé par une catastrophe invraisemblable, inouïe, qu'il atteignait en plein bonheur, son cerveau avait été pour un moment frappé de paralysie. Mais il recueillait une à une ses idées éparses, et avec la faculté de penser, la faculté de souffrir lui revenait. Il en est des crises morales comme des crises physiques. Aussitôt après un choc terrible qui fracture le crâne ou qui brise un membre, on ressent une douleur épouvantable. Il est vrai, mais vague, mais indéterminée, et que suit un engourdissement plus ou moins prolongé. C'est plus tard qu'on éprouve véritablement le mal. Il va grandissant, redoublant d'intensité de minute en minute, poignant, intolérable, jusqu'au moment où il arrive à son apogée. Ainsi, chacune des réflexions de cet homme si malheureux augmentait sa mortelle angoisse. Quoi? C'était Berthe Hector qui le trompait, qui le déshonorait. Elle, une femme aimée jusqu'à l'idolâtrie. Lui, son meilleur, son plus ancien ami. Une malheureuse qu'il avait arrachée à la misère, qui lui devait tout. Un gentilhomme ruiné qu'il avait ramassé le pistolet sur la tempe et qu'il avait recueilli ensuite. Et c'est chez lui, sous son toit, que se tramait cette infamie sans nom. S'était-on assez joué de sa noble confiance? Avait-il été assez misérablement pris pour dupe? L'affreuse découverte empoisonnait non seulement l'avenir, mais encore le passé. Il eût voulu pouvoir rayer de sa vie, anéantir ces années écoulées près de Berthe, que la veille encore, il appelait ses sales années de bonheur. Le souvenir de ses félicités d'autrefois emplissait son âme de dégoût, de même que la pensée de certains aliments soulève l'estomac. Mais comment cela s'était-il fait? Quand? Comment ne s'était-il aperçu de rien? Mille détails lui revenaient à la mémoire qui eussent dû l'éclaircir s'il n'eût été frappé d'aveuglement. Il se rappelait maintenant certains regards de Berthe, certaines inflexions de voix qui étaient un aveu. Et dans toute cette histoire du mariage de Trémorel avec Mademoiselle Courtois, s'était-on assez moqué de sa crédulité? Ainsi s'expliquaient, croyait-il, les hésitations d'Hector, ses enthousiasmes soudains, ses revirements inattendus. Ce projet qui traînait depuis si longtemps, c'était un bandeau plus épais appliqué sur ses yeux. Par moments, il essayait de douter. Il est de ces malheurs si grands qu'il faut plus que l'évidence pour qu'on y croie absolument. Ce n'est pas possible, murmurait-il, ce n'est pas possible. Assis sur un tronc d'arbre renversé, au milieu de la forêt de Mauprévoir, il étudiait pour la dixième fois depuis 4 heures cette lettre fatale. Elle prouve tout, disait-il, et elle ne prouve rien. Et il relisait encore. N'allez pas demain à Petit-Bourg. Eh bien, n'avait-il pas été dans sa confiance imbécile jusqu'à dire maintes et maintes fois au comte de Trémorel: Je serai absent demain, reste donc pour tenir compagnie à Berthe. Cette phrase n'avait donc aucune signification positive, mais pourquoi avoir ajouté, ou plutôt revenez avant déjeuner? Voilà qui décelait la crainte, c'est-à-dire la faute. Partir, revenir aussitôt, c'était prendre une précaution, aller au-devant d'un soupçon. Puis pourquoi il et non pas Clément? L'expression de ce mot est saisissante. Il, c'est l'être cher, l'adoré, ou le maître qu'on exècre. Pas de milieu, c'est le mari ou l'amant. Il n'est jamais un indifférent. Un mari est perdu le jour où sa femme, en parlant de lui, dit il. Mais quand Berthe avait-elle écrit ces 5 lignes? Un soir sans doute, après qu'il s'était retiré dans la chambre conjugale. Il lui avait dit, je vais demain à Melun, et aussitôt elle avait à la hâte griffonné ce billet et l'avait envoyé plier dans un livre à son amant. Son amant, il prononçait ce mot tout haut, comme pour se l'apprendre, comme pour se bien convaincre de l'horrible réalité. Il disait, ma femme, ma Berthe, a un amant. L'édifice de son bonheur, qui lui avait paru solide, a défié tous les orages de la vie s'écroulait. Et il restait là, éperdu au milieu des décombres. Plus de bonheur, de joie, d'espérance, rien. Sur Berthe seule reposaient tous ses projets d'avenir. Son nom était mêlé à tous ses rêves, ou plutôt, elle était à la fois l'avenir et le rêve. Il l'avait tant aimée qu'elle était devenue quelque chose de lui et qu'il ne pouvait se comprendre sans elle. Berthe perdue, il ne voyait aucun but vers lequel se diriger. Il n'avait plus de raison de vivre. Il sentait si bien que tout en lui était brisé, qu'il eut l'idée d'en finir. Il avait son fusil, des balles. On attribuerait sa mort à un accident de chasse et tout serait dit. Oui, mais eux. Ah, sans doute, continuant leur comédie infâme, ils feraient semblant de le pleurer, tandis qu'en réalité leur cœur déborderait de joie. Plus de mari, plus de contraintes, de ruses, de frayeurs. Son testament assurant toute sa fortune à Berthe, il serait riche. y vendrait tout, et il s'en irait gaiement s'aimer en liberté, bien loin, en Italie, à Venise, à Florence. Quant à son souvenir à lui, pauvre mari trop confiant, il resterait pour eux le souvenir d'un être ridicule, qu'on trompe, qu'on bafoue et qu'on méprise. Jamais, s'écria-t-il, ivre de fureur, jamais. Je veux me tuer, mais il faut auparavant que je me venge. Mais il avait beau chercher, il ne trouvait aucun châtiment assez cruel, assez terrible. Quel supplice pouvait faire expier les effroyables tortures qu'il endurait? Il se dit que pour mieux assurer sa vengeance, il lui faudrait attendre. Et il se jura qu'il attendrait. Il se jura qu'il saurait feindre une inaltérable sécurité, qu'il saurait se résigner à tout voir, à tout entendre. Ma perfidie, pensait-il, égalera la leur. C'est qu'une duplicité savante était indispensable. Berthe était la finesse même, et elle était femme, au premier soupçon que son mari se doutait de quelque chose, à fuir avec son amant. Hector, maintenant, ne possédait-il pas, grâce à lui, tout près de 400 000 francs? Cette idée qu'il pourrait échapper à sa vengeance lui rendit avec son énergie toute la lucidité de son esprit. Alors seulement il songea au temps écoulé, à la pluie qui tombait à torrents, à l'état de ses vêtements. Baste, pensa-t-il, j'arrangerai une histoire selon ce qu'on me dira. Il n'était guère qu'à une lieue de chez lui, mais il lui fallut, à lui, excellent marcheur, plus d'une heure et demie pour faire cette lieue. Il était brisé, anéanti, il se sentait glacé jusque dans la moelle des os. Mais lorsqu'il rentra au Valfeuillu, il avait réussi à reprendre son visage habituel, sa gaieté, qui exprimait si bien sa sécurité parfaite. On l'avait attendu, mais il ne put prendre sur lui, en dépit de ses serments, de s'asseoir à table entre cet homme et cette femme, ses deux plus cruels ennemis. Il déclara qu'ayant pris froid, il ne se sentait pas bien et allait se mettre au lit. Vainement, Berthe insista pour qu'il avalât au moins un bol de bouillon bien chaud avec un verre de Bordeaux. Sérieusement, fit-il, je ne me sens pas bien. Lorsque Sauvresy se fut retiré. Avez-vous remarqué, Hector? Demanda Berthe. Quoi? Mon mari a quelque chose d'extraordinaire. C'est fort possible, après être resté toute la journée sous la pluie. Non, son œil avait une expression que je ne lui connais pas. Il m'a semblé à moi fort gai, comme toujours. Hector, mon mari, a un soupçon. Lui? Ah, le pauvre cher ami, il a bien trop confiance en nous pour songer à être jaloux. Vous vous trompez, Hector. Il ne m'a pas embrassé en rentrant, et c'est la première fois depuis notre mariage. Ainsi, pour son début, il avait commis une faute. Il l'avait fort bien senti, mais embrasser Berthe en ce moment était au-dessus de ses forces. Cependant, il était beaucoup plus souffrant qu'il ne l'avait dit et qu'il ne l'avait cru surtout. Lorsque sa femme et son ami montèrent à sa chambre, après le dîner, ils le trouvèrent grelottant sous ses couvertures, rouge, le front brûlant, la gorge sèche, les yeux brillants d'un éclat inquiétant. Bientôt, une fièvre terrible le prit, accompagnée d'un affreux délire. On envoya chercher un médecin qui tout d'abord déclara qu'il ne pouvait répondre de lui. Le lendemain, il était au plus mal. De ce moment, le comte de Trémorel et madame Sauvresy firent preuve du plus admirable dévouement. Pensaient-ils ainsi racheter quelque chose de leur crime? C'est douteux. Ils cherchaient plus vraisemblablement à en imposer à l'opinion publique, tout le monde s'intéressant à l'état de Sauvresy. Toujours est-il qu'ils ne le quittèrent pas une minute, passant les nuits à tour de rôle à son chevet. Et certes, le veiller était pénible. Un délire furieux, ne le quittait pas. À deux ou trois reprises, il fallut employer la force pour le maintenir dans son lit. Il voulait se jeter par la fenêtre. Le troisième jour, il eut une fantaisie singulière. Il ne voulait absolument pas rester dans sa chambre. Il criait comme un fou. « Emportez-moi d'ici! Emportez-moi d'ici !» Sur les conseils du médecin, on se rendit à ses désirs et on lui dressa un lit dans le petit salon du rez-de-chaussée qui donne sur le jardin. Mais la fièvre ne lui arracha pas un mot ayant trait à ses soupçons. Peut-être, ainsi que l'a indiqué Bichat, une ferme volonté peut-elle régler jusqu'au délire. Enfin, le neuvième jour, dans l'après-midi, la fièvre céda. Sa respiration haletante devint plus calme, il s'endormit, il avait toute sa raison lorsqu'il se réveilla. Ce fut un moment affreux, il lui fallait pour ainsi dire rapprendre son malheur. Il crut d'abord que c'était le souvenir d'un cauchemar odieux qui lui revenait. Mais non, il n'avait pas rêvé. Il se rappelait l'hôtel de la belle image, Miss Fancy, les bois de Mauprévoir, et la lettre. Qu'était-elle devenue, cette lettre? Puis, comme il avait la certitude vague d'une maladie grave, d'accès de délire, il se demanda s'il n'avait pas parlé. Cette inquiétude l'empêcha de faire le plus léger mouvement, et c'est avec des précautions infinies, doucement, qu'il se risqua à ouvrir les yeux. Il était 11 heures du soir. Tous les domestiques étaient couchés. Seuls, Hector et Berthe veillaient. Ils lisaient un journal, elle travaillait un ouvrage de crochet. À leur calme physionomie, Sauvresy comprit qu'il n'avait rien dit. Mais pourquoi était-il dans cette pièce? Il fit un léger mouvement et aussitôt Berthe se leva et vint à lui.
Comment te trouves-tu, mon bon Clément? Demanda-t-elle en l'embrassant tendrement sur le front. Je ne souffre pas. Vois pourtant les suites d'une imprudence. Depuis combien de jours suis-je malade? Depuis 8 jours. Pourquoi m'a-t-on apporté ici? C'est toi qui l'as voulu. Trémorel, à son tour, s'était approché. Eh bien voulu même, affirma-t-il. Tu refusais de rester là-haut? Tu t'y démenais comme un diable dans un bénitier. Ah! Mais ne te fatigue pas, reprit Hector. Rendors-toi, et demain, tu seras guéri. Et bonne nuit. Je vais me coucher bien vite pour venir relever ta femme demain à 4 heures. Il se retira, et Berthe, après avoir donné à boire à son mari, regagna sa place. Quel ami incomparable que monsieur de Trémorel, murmura-t-elle. Sauvresy ne répondit pas à cette exclamation si affreusement ironique. Il avait refermé les yeux. Il faisait semblant de dormir et songeait à la lettre. Qu'en avait-il fait? Il se rappelait fort bien de l'avoir pliée soigneusement et serrée dans la poche du côté droit de son gilet. Il lui fallait cette lettre. Tombée aux mains de sa femme, elle compromettait sa vengeance et elle pouvait y tomber d'un moment à l'autre. C'était miracle que son valet de chambre ne l'eût pas posé sur la cheminée comme il faisait de tous les objets qu'il trouvait dans ses poches. Il songeait au moyen de la ravoir, à la possibilité de monter à sa chambre où devait se trouver son gilet lorsque doucement Berthe se leva. Elle vint au lit et murmura bien bas. « Clément, Clément !» Il n'ouvrit pas les yeux et, persuadé qu'il dormait, légère, sur la pointe des pieds, retenant son souffle, elle sortit. « Ah, la misérable !» fit Sauvresy, « elle va rejoindre son amant. » En même temps, avec l'idée de se venger, la nécessité de rentrer en possession de la lettre se présentait à son esprit, plus poignante, plus impérieuse. « Je puis, pensait-il, gagner ma chambre sans être vu par le jardin et l'escalier de service. » Elle me croit endormie, je serai revenu et couché avant son retour. Aussitôt, sans se demander s'il n'était pas trop faible pour risquer le trajet, sans s'inquiéter du danger qu'il courait à s'exposer au froid, il se jeta à bas de son lit, passa une robe de chambre déposée sur une chaise et, les pieds nus dans ses pantoufles, il se dirigea vers la porte. Il se disait « Si on vient, si on me rencontre, je mettrai tout sur le compte du délire. » La lampe du vestibule était éteinte, il eut quelque peine à ouvrir la porte, il y réussit cependant et descendit dans le jardin. Le froid était intense et il était tombé de la neige. Le vent agitait lugubrement les branches des arbres durcis par la gelée. La façade de la maison était sombre. Une seule fenêtre était éclairée, celle du comte de Trémorel, et elle l'était vivement par une lampe sans abat-jour et par un grand feu clair. Sur les rideaux de fine mousseline se dessinait très nettement, avec les contours les plus précis, l'ombre d'un homme, l'ombre d'Hector. Il était debout, devant la croisée, le front appuyé contre une vitre. Instinctivement, Sauvresy s'arrêta pour regarder cet ami qui, dans sa maison, était comme chez lui et qui, en échange de la plus fraternelle des hospitalités, apportait le déshonneur, le désespoir, la mort. Quelle réflexion le clouait à cette fenêtre, le regard perdu dans les ténèbres. Songeait-il à l'infamie de sa conduite? Mais il eut un mouvement brusque. Il se retourna comme s'il eût été surpris par quelque bruit insolite. Qui était-ce? Sauvresy ne le sut que trop. Une seconde ombre se dessina sur le léger rideau, l'ombre d'une femme, l'ombre de Berthe. Et lui, qui s'efforçait de douter quand même, des preuves nouvelles lui arrivaient sans qu'il les eût cherchées. Quelle raison l'amenait dans cette chambre, à cette heure? Elle parlait avec une certaine animation. Il lui semblait entendre cette voix pleine et sonore, tantôt timbrée comme le métal, tantôt molle et caressante, et qui faisait vibrer en lui toutes les cordes de la passion. Il revoyait ses yeux, si beaux, qui avait régné despotiquement sur son cœur et dont il pensait connaître si bien toutes les expressions. Mais que faisait-elle? Sans doute, elle était venue demander quelque chose à Hector. Il la lui refusait, et voici qu'elle le priait. Oui, elle le priait, et Sauvresy le devinait bien au geste de Berthe qui nettement se reproduisait sur la mousseline comme le spectre noir des ombres chinoises sur le papier huilé. Il connaissait si bien ce geste ravissant de supplication qui lui était familier quand elle désirait obtenir quelque chose. Elle levait les deux mains jointes à la hauteur de son front, inclinait la tête, fermant à demi les yeux pour en redoubler l'éclat. Quelle langueur voluptueuse avait sa voix quand elle disait « Dis, mon bon Clément, tu veux bien, n'est-ce pas? Tu veux bien ?» Et c'est pour un autre homme qu'elle avait ce geste charmant, ce regard, ces intonations. Sauvresy fut obligé de s'appuyer à un arbre pour ne pas tomber. Évidemment, Hector lui refusait ce qu'elle souhaitait. Elle agitait maintenant l'index relevé de la main droite, avec des mouvements mutins, hochant la tête d'un air de bouderie, et elle devait lui dire « Tu ne veux pas, tu vois, tu ne veux pas. » Cependant, elle revenait à la prière. Ah, pensait Sauvresy, il s'est résisté à une prière de sa bouche. Je n'ai jamais eu ce courage, moi. Il peut garder sa raison, son sang-froid, sa volonté, quand elle le regarde. Je ne lui ai jamais dit non, moi. Ou plutôt, je n'ai jamais attendu qu'elle me demandât rien. J'ai passé ma vie à épier ses moindres fantaisies pour les prévenir. Peut-être est-ce là ce qui m'a perdu. Hector s'obstinait et Berthe peu à peu s'animait. Elle devait être en colère. Elle reculait, étendait le bras, le buste en arrière, elle le menaçait. Enfin, il était vaincu. De la tête, il fit « oui ». Alors, elle se précipita, elle se jeta sur lui, les bras ouverts et les deux ombres se confondirent en une longue étreinte. Sauvresy ne put retenir un cri terrible qui se perdit au milieu des mugissements du vent. Il avait demandé une certitude, il l'avait. La vérité éclatait, indiscutable, évidente. Il n'avait plus rien à chercher maintenant, rien que le moyen de punir, sûrement, terriblement. Berthe et Hector causaient amicalement, elle appuyée contre sa poitrine, lui baissant la tête par moments pour embrasser ses beaux cheveux. Sauvresy comprit qu'elle allait descendre, qu'il ne pouvait songer à aller chercher la lettre, et, en toute hâte, il entra, oubliant, tant il redoutait d'être surpris, de remettre les verrous à la porte du jardin. Ce n'est qu'une fois arrivé dans sa chambre qu'il s'aperçut qu'il était resté les pieds nus dans la neige. Même, il gardait quelques gros flocons à ses sandales, et elles étaient toutes mouillées. Vivement, il les lança sous le lit, tout au fond, et se recoucha, faisant semblant de dormir. Il était temps. Berthe rentrait. Elle s'approcha de son mari et, croyant qu'il ne s'était pas réveillé, elle revint prendre sa broderie près du feu. Elle n'avait pas fait 10 points que Trémorel reparut. Il n'avait pas pensé à monter sur Journal et revenait le chercher. Il semblait inquiet. « Êtes-vous sortie ce soir, madame ?» lui demanda-t-il de cette voix chuchotante qu'on prend involontairement dans la chambre des malades. « Non ? Tous les domestiques sont bien couchés ? Je le suppose, du moins. Mais pourquoi ces questions ? C'est que, depuis que je suis montée, c'est-à-dire depuis moins d'une demi-heure, quelqu'un est allé dans le jardin et est rentré. »
Berthe le regarda d'un air singulièrement inquiet.
« Êtes-vous sûr de ce que vous dites ?»« Parfaitement. Il y a de la neige et la personne qui est sortie en a rapporté à ses chaussures. Cette neige, tombée sur les dalles du vestibule, a fondu. »
Madame Sauvresy prit brusquement la lampe, interrompant Hector.
« Venez, dit-elle. »
Trémorel ne s'était pas trompé. On voyait çà et là de petites flaques d'eau, très apparentes sur les carreaux noirs.
Peut-être cette eau était là depuis assez longtemps, hasarda Berthe. Non, il n'y avait rien tout à l'heure. J'en mettrai ma main au feu. Et d'ailleurs, voyez là, tenez, il y a encore un peu de neige qui n'a pas fondu.
C'est sans doute un domestique. Hector était allé examiner la porte.
Je ne le crois pas, répondit-il. Un domestique aurait remis les verrous. Et vous le voyez, ils sont tirés.
C'est cependant moi qui ce soir ai fermé la porte. Je me le rappelle parfaitement les avoir poussés.
Ah, c'est extraordinaire! Et de plus, remarquez-le, les traces d'eau ne vont pas plus loin que la porte du salon.
Ils restèrent silencieux, palpitants, échangeant des regards pleins d'anxiété. La même pensée terrifiante leur venait à tous deux.
Si c'était lui! Pourquoi serait-il allé au jardin? Ça ne pouvait être pour les épier. Il ne songeait pas à la fenêtre.
Ce ne peut être Clément, dit enfin Berthe. Il dormait lorsque je suis sorti, et il dort encore maintenant du sommeil le plus calme et le plus profond.
Penché sur son lit, Sauvresy écoutait ceux qui étaient devenus ses ennemis les plus abhorrés. Il maudissait son imprudence, comprenant bien qu'il n'était pas fait pour les machinations perfides. « Pourvu, pensait-il, qu'il n'ait pas l'idée de visiter ma robe de chambre et de chercher mes sandales. »
Heureusement, cette idée si simple ne leur vint pas et ils se séparèrent après avoir tout fait pour se rassurer mutuellement. Mais chacun, au fond de son âme, emportait un doute poignant. Cette nuit-là même, Sauvresy eut une crise affreuse. Après cette lueur de raison, le délire, cette hôte terrible emplit de nouveau son cerveau de ses fantômes. Le docteur R., le lendemain matin, le déclara plus en danger que jamais, à ce point qu'il expédia une dépêche à Paris pour prévenir de son absence et annonça qu'il allait rester 2 ou 3 jours au Valfeuillu.
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.